Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Toi qui écoutes Radio Canu sur le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org, il est 22h et c'est l'heure de la causerie comme tous les dimanches jusqu'à 23h environ. Et ce soir dans les studios, nous avons à la technique Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons aussi Fab.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Eh bien, comme à notre habitude, hein, quitte à ce que ça saoule peut-être les habitués, mais on va continuer comme ça. On va vous rappeler comment nous joindre, parce que quand même, c'est un peu un truc qu'on a envie, hein, si vous ne l'aviez toujours pas compris depuis 10 ans.
Écrivez-nous. J'en profite pour nous excuser collectivement. Il y a plusieurs personnes à qui on doit des réponses. Elles arrivent, promis, dans la semaine, on vous répond. Oui, oui.
Mais pas sur le blog.
Mais par contre sur le mail, ouais. Donc promis, on vous répond cette semaine, pardon.
Si vous nous écoutez. Voilà. Donc évidemment, pour nous contacter, vous pouvez nous écrire un mail, c'est à la causerie canu, tout attaché en minuscule, lacauseriecanu@gmail.com. Vous nous retrouvez évidemment sur le blog de l'émission, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou dans votre petit moteur de recherche vous tapez blog Radio Canu, la causerie, tout ça, vous tomberez dessus pour écouter les 478 précédentes émissions. Et évidemment, évidemment ou pas d'ailleurs, vous pouvez aussi nous retrouver sur un réseau socio-commercial, hein, celui de Marc Z. On y poste que les podcasts, c'est bizarre à dire, mais donc voilà, donc vraiment on vous le dit tout le temps, mais favorisez plutôt le blog, parce que ça ne fait pas d'argent pour un certain Marc Z et pour tous ceux qui se font de l'argent là-dessus. Et c'est aussi, vous pouvez aussi retrouver la causerie sur tous les sites de balado-diffusion. Les podcasts, que ce soit les box internet, etc. Normalement, vous nous y trouvez et on peut donc accompagner vos petites déambulations dans la ville ou dans la campagne, dans le creux de vos oreilles.
Ouais, je ne sais pas si la causerie, quand tu cours le long des quais du Rhône, c'est bien.
Je ne suis pas sûr.
C'est peut-être à tester.
Je ne sais même pas si la causerie, c'est bien, c'est te dire.
Déjà au départ. Au départ, ça, c'est le premier truc. Mais alors, courant, je ne sais pas.
Alors, je crois que j'ai tout dit et puis on attaque de suite. Et c'est Fab qui va commencer avec un sujet un petit peu plus long. Sur ce qui se.
Un peu dense.
Un peu dense. Avec ce qui se passe du côté de Mayotte.
Eh bien, oui, parce qu'à Mayotte, c'est Wambushu. Voilà. Alors en fait, Wambushu, c'est une opération qui est en fait plus que dégueulasse, puisque c'est le nom d'une opération. Donc il y a quelques semaines de cela, le caporal en chef de la police républicaine, le très droitier lorgnant vers l'extrême droite Darmanin, laissait volontairement fuiter qu'une opération secrète, oui parce que quand on l'a fait fuiter, elle est plus secrète, nommée Wambushu, allait avoir lieu sur l'île de Mayotte. Alors il faut déjà savoir que ce mot, ça signifie reprise ou poil à gratter. En maorais. Voilà. Dans le premier sens du mot, on voit bien l'idée. Reprendre ce territoire perdu de la République aux séparatistes. Parce que Mayotte, c'est un département et il est administré. Donc, c'est pas ça. Alors, reprendre le terrain face à la misère qui sévit sur l'île, Non, vous n'y pensez pas quand même, déconnez pas, c'est pas ça. Non, en fait, il s'agissait de lancer une grande campagne d'expulsion de personnes en situation irrégulière et de destruction de plusieurs bidonvilles qui existent sur l'île.
Voilà. Oui, parce qu'on ne lutte jamais contre la pauvreté avec des gens en armes.
Rarement. Ou alors si, on lutte contre les pauvres dans ce cas-là.
Oui, c'est ça, c'est ça, pas contre la pauvreté.
Donc, quant à la notion de poil à gratter, Darmanin s'en amuse en assurant sur une radio, alors je ne sais plus laquelle, que l'on sentirait passer cette opération. Il est drôle, Darmanin.
Voilà. Ah oui, il a vraiment le sens de l'humour.
Oui, super. Alors donc, l'opération a été lancée, hein, mais il y a eu comme un petit couac. Voilà, bon, je vais y revenir plus tard. Mais surtout, il faut quand même analyser le discours qui se tient sur place depuis des années. C'est ça qui est intéressant de voir comment justement on en arrive là. Voilà. Donc Mayotte, on va le rappeler, hein, c'est un territoire qui n'a jamais été décolonisé. Alors oui, il y a des gens que ça va choquer, ce que je dis là, donc qui vont me traiter, m'appeler, dire que je suis wokiste, et ben je les emmerde. Donc il m'est impossible ici de résumer toute l'histoire de l'île, hein, parce que ça me prendrait quand même plusieurs heures, et je les ai pas. Voilà. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est sans doute que l'île est en fait une des quatre îles de l'archipel des Comores, mais ça depuis toujours, hein, parce que c'est géographique, archipel qui a obtenu son indépendance sous l'égide de l'ONU dans les années 70. Mais qu'à l'époque, en jouant sur les votes et en utilisant les métropolitains installés à Mayotte, la France s'est arrangée pour que l'île dise ne pas vouloir de l'indépendance. Voilà. Plusieurs enquêtes journalistiques, et pas que, vu que l'ONU conteste aussi ce résultat depuis le début, démontrent que ce référendum de non-indépendance était clairement ou truqué ou fortement influencé. Voilà.
Ouais, et j'ai trouvé intéressant, c'est parce que j'ai vu un compagnon qui a partagé ça, un ancien compagnon en art. Justement, c'était le discours de Valéry Giscard d'Estaing,
oui, qui dit
avant le vote, quoi.
Le référendum.
Avant le référendum, en fait, qui tenait absolument pas un discours colonial, en fait, qui finalement est le résultat après du vote. Mmh. Mais avant ça, il avait un discours plutôt, justement, en fait, ça n'a pas de sens que Mayotte soit en dehors des Comores, en fait.
Alors, ça n'a pas de sens, sauf qu'en fait, Valéry Giscard d'Estaing, lui, voulait, je vous le rappelle, diminuer la place de l'armée française dans le monde. C'était une des spécificités de cet homme de centre-droit, hein. Au grand dam des gaullistes à l'époque et aussi d'une partie de la gauche, on va le rappeler quand même. En fait, lui, il voyait bien l'idée que ça servait à rien de garder cette île. Mais derrière, il y avait quand même des gens qui avaient envie de la garder parce que pour se projeter militairement, c'est pratique. Voilà. Donc en fait, rien n'y fait, hein, malgré les contestations de l'ONU. Mayotte reste française. Voilà. Donc l'ONU conteste, hein, mais la France ayant un droit de veto, elle bloque les 21 résolutions lui demandant de donner une réelle indépendance à Mayotte, ce qui lui permettrait, si l'île le souhaite, de rejoindre les Comores ou de rester d'ailleurs une île indépendante, hein, si elle le souhaite. Voilà.
Non mais je trouve drôle en fait que...
On fait comme Poutine.
Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais c'est drôle en fait parce que la France aime bien dénoncer la Chine ou la Russie ou les États-Unis qui mettent leur veto. Bah, en fait, la France fait pareil.
Technique, tout pareil.
Oui.
Dans le même temps, hein, donc, la France elle va installer sur place des bases militaires et un de ses centres de gestion des satellites espions qu'elle possède, hein, donc, en pleine guerre froide, parce qu'on rappelle qu'on est dans les années 70, c'est la guerre froide. Et la France joue donc sur les peurs pour retourner la population de Mayotte. Parce qu'il faut savoir qu'à Mayotte, il y a une grande tradition de propagande étatiste. Hein. Voilà. Donc elle va expliquer que les Comores sont une base arrière de l'URSS. Alors là, vous pourrez demander à n'importe quel historien, il va vous rire au nez, parce que les Comores, l'URSS, bon, ils auraient pu essayer, mais non. Voilà. Il y a d'autres endroits en Afrique où c'était plus vrai, mais par contre, où les Comores, non. Que l'indépendance de l'île, donc du coup, serait le meilleur moyen de la faire basculer dans la pauvreté, etc., etc. Bon, alors les Mahorais qui habitent aujourd'hui sur l'île auront constaté à quel point ça n'a pas empêché qu'elle bascule dans la pauvreté, mais on va y revenir. Après la chute de l'URSS, bah du coup, c'est dans le discours officiel sur place, l'immigration qui va devenir le fer de lance des autorités françaises pour garder la main. C'est-à-dire que la France, là-bas, elle empêche une immigration incontrôlée et le grand remplacement des Mahorais. Je déconne pas, hein, c'est vraiment dans les discours officiels que je vous balance là, hein, donc c'est assez flippant quand même. Hein. On voit que la notion de grand remplacement, si chère à une certaine extrême droite française, est aussi dans le discours quasi officiel de l'État français sur l'île de Mayotte. Donc, c'est quand même intéressant. Je vais faire une parenthèse et rappeler quand même tranquillement que les Mahorais qui habitent aujourd'hui sur l'île de Mayotte sont à 95% issus des Comores. C'est-à-dire, mais déjà à l'origine, mais ils sont issus des quatre îles. Donc depuis des millénaires, c'est pas, on les a pas mis là, vous voyez, c'est, voilà. Voilà. Après, ça c'est pour les Maorais, et après pour les personnes qui sont venues sur l'île, c'est une partie des esclaves, malheureusement, et une autre partie des métropolitains qui sont venus s'installer. Mais en fait, en réalité, à l'origine, il y avait un peuple, hein, Mayotte, c'est les Maorais. Donc voilà. comme ça commence à pas trop bien marcher, l'idée, voilà, on va commencer à faire très très peur. On va dire, oulala, vous vous rendez compte, il y a de l'immigration, c'est pas bien, c'est pas bien. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de départementaliser l'île pour permettre un déploiement plus simple des services de l'État. Alors, comprendre avant tout l'armée et la police, hein, parce qu'on va pas parler d'autre chose. Et c'est en 2009 que l'île va devenir un département français.
Mais pardon, mais avant ça, il n'y a pas eu une période aussi avec un certain barbouze qui s'appelait Bob Denard? C'était aux Comores, non?
C'est aux Comores, oui. Il a servi à empêcher Mayotte de revenir, par exemple. Oui, un mec très sympa.
Oui.
J'ironise. Hein,
oui, bien, évidemment. Oui.
Voilà, donc, pardon. Donc, en fait, c'est pas idyllique, hein, loin de là. Mayotte connaît un taux de chômage énorme. Hein. Plus de 75% des personnes en âge de travailler n'ont pas accès à un emploi. C'est pas qu'ils veulent pas travailler, hein, comme je l'ai entendu dans la bouche de certains politiques. Non, c'est qu'ils ont juste pas accès à un emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'emplois par rapport au nombre de personnes, tout simplement. Et dans le même temps, les prix augmentent énormément vu que beaucoup de biens de consommation sont importés, comme sur beaucoup d'îles. Hein. C'est un peu la difficulté des îles en général. C'est que, bah, sauf si vous gardez un mode de vie extrêmement précaire et grégaire ou ancestral, je sais pas, bah, vous pouvez effectivement, mais si vous avez envie d'avoir un mode de vie plus, entre guillemets, moderne, je mets des guillemets parce que ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, et que vous voulez vivre un petit peu à l'occidental, comme on dit, bah, en fait, vous êtes obligé d'importer énormément de choses parce que, bah, vous pouvez pas les produire sur place ou elles n'existent pas de fait.
Voilà. Oui, le problème, en fait, c'est surtout, à mon avis, déjà de pas arriver à avoir une certaine suffisance, autosuffisance, je pense que c'est compliqué, mais alimentaire, en fait. Enfin, je veux dire, et ça, c'est des problèmes qu'on rencontre.
Alors, Mayotte pourrait l'avoir.
Oui.
Mais on n'oriente pas les choses vers ça. Ouais. Voilà, c'est toujours le même. Là aussi, il y a des choix politiques. Donc en 2011, va éclater sur l'île un mouvement de contestation énorme, hein, lié au fait que les prix des biens de consommation sont tout simplement trop chers. Alors quand on dit trop cher, pour vous donner un tout petit exemple, le kilo de riz à Mayotte avait fait x10. Voilà, donc imaginez un jour, si vous allez dans votre magasin préféré et que vous rentrez, que le kilo de riz a pris 10 fois le prix. Enfin, c'est dur à imaginer. Enfin, même moi, quand je me suis dit, comment je réagirais, en fait, je sais pas, voilà. Et ce, en quelques mois, hein, pas en 10 ans. Voilà. Et donc la majorité de l'île, en fait, est aussi plongée à l'époque dans la pauvreté, encore aujourd'hui, hein, mais malheureusement. Alors pendant plusieurs semaines, il y a des manifestations qui vont se succéder. Alors l'île, elle est progressivement paralysée. Et en fait, il y a des actes dits de violence, hein, entre guillemets, qui se multiplient. Alors je fais très attention dans ce que je dis, parce que tout est classé dans actes de violence. Il y a des vrais actes de violence qui existent vraiment à Mayotte, on en parlera après. Mais là, à l'époque, ce qui est appelé acte de violence, c'est le fait de bloquer des routes. Voilà, donc on est un peu loin de ce que moi j'appelle la violence, perso. Mais enfin, voilà.
Oui, mais là on retombe sur le sujet dont on a parlé il y a peu de temps, c'est quoi une violence, quoi.
Mais je vous donne un petit peu le truc. Et aussi le fait que les gens qui étaient en grève ou qui manifestaient ont aussi refusé parfois les ordres de bouger, ce qui fait qu'il y a eu de la violence envers la police, ou de la police vers eux plutôt, et qu'ils ont riposté. Et c'est, mais sauf que c'est pas de la violence au sens où moi je l'entendrais, de dire, voilà. Bon. Donc il y a des magasins quand même qui sont pillés. Alors là aussi, hein, c'est écrit comme ça, mais je vais rappeler que ce sont les magasins qui refusaient d'appliquer une détaxe, que demandaient les grévistes, en disant, ben, puisque c'est ça, enlevez la taxe, la fameuse, qui s'appelait la taxe Maorais d'ailleurs, vendez-nous ça au prix coûtant. Et quand ils refusaient, ben, oui, il y a eu des pillages, ben, ouais, ça peut paraître violent, mais je vous le rappelle, 1x10. Donc voilà, c'est juste ça. Et il y a des barrages donc, qui sont montés. Alors, les gendarmes, hein, parce qu'il y a Mayotte, c'est les gendarmes. C'est l'armée. Sinon, c'est pas marrant. Donc, les gendarmes mobiles, ils vont charger à plusieurs reprises. Et en fait, un manifestant va mourir, hein, dans ces affrontements, et un autre est grièvement blessé. Alors, quand on dit grièvement blessé, il est en fauteuil roulant, hein, le monsieur, aujourd'hui. Et en fait, bah, les médias de la métropole, ils observent un silence quasi général sur les événements, y compris les médias dits de gauche. Voilà. Et en fait, y a quelques médias alternatifs qui vont en parler. On peut saluer d'ailleurs Rébellion, parce qu'ils en avaient parlé à l'époque, et d'autres. Mais voilà, en tout cas, à part ces médias un petit peu dits alternatifs, ou à part peut-être sur Radio Canu, je ne me rappelle pas, mais peut-être que des émissions en ont parlé. Bah, en tout cas, bah, dans les grands médias, alors qu'il y a quand même un mort, hein, dans ces affrontements, c'est pas rien, c'est la police a tué un manifestant, on le rappelle, et ben, on n'en parle pas. Voilà. Ou très peu. Alors, du coup, Qui dit forte pauvreté dit quand même délinquance et gang. Alors pardon, mais ça va souvent de pair. Hein. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et Mayotte, ça ne fait pas exception. L'île est classée d'ailleurs comme zone délicate, entre guillemets, par beaucoup d'opérateurs de voyage. Bon, alors zone délicate, c'est que vous pouvez y aller, hein, je vous rappelle. Après, c'est zone à éviter, qui est au-dessus. Donc voilà, mais zone délicate. Bon. Pour vous donner un exemple, quand même, juste comme ça, Rio de Janeiro est une zone délicate. Mmh. Voilà, c'est pour faire un parallèle, pour comprendre. Donc depuis 2018, hein, les violences montent d'un cran, et c'est surtout parce que des gangs règlent leur compte en caillassant des bus scolaires, censés transporter des ennemis qui sont de l'autre gang, vous voyez. On sait ce que c'est qu'une guerre des gangs, hein, ça arrive, voilà. Et il y a aussi une augmentation du nombre de pillages de maisons et de magasins qui sont devenus plus fréquents. Et ce que disent les Mahorais, y compris des Mahorais, on va dire, progressistes de gauche ou même pour certains anarchistes, ils disent ce qui est nouveau et ce qui est gênant, c'est qu'en fait, c'est n'importe quelle maison. C'est-à-dire y compris des maisons de gens pauvres qui sont.
Oui, c'est vidés. pas ciblé sur des maisons de riches, sur les dominants.
Alors là, j'entends déjà ceux qui m'ont traité de wokiste au début dire il est en train de dire qu'on a le droit de voler les riches. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y aurait quand même une logique, alors que là, en fait, on est vraiment sur des choses qui touchent tout le monde et qui sont de façon un peu aveugle. Et donc, du coup, c'est assez problématique et ça montre quand même qu'il y a une sorte de perte de repère dans tout ça. Donc, ces tensions et violences et crispations, en fait, vont donner carte blanche à la droite et à l'extrême droite de l'île pour demander une intervention quasi militaire sur l'île. Parce qu'on va être très clair, Mayotte, la plupart des Blancs qui habitent, ça va choquer un peu, qui habitent à Mayotte, votent à l'extrême droite et à droite. Hein. Donc voilà, on va le dire, parce qu'on le sait, c'est connu à Mayotte depuis très longtemps. Et donc c'est eux qui demandent, venez nous sauver de ces sauvages, hein, en gros. C'est d'ailleurs un certain Laurent Wauquiez, hein, alors président du Parti des Républicains, en visite sur l'île, hein, qui venait soutenir un de ses candidats là-bas, qui va mettre le feu aux poudres en apportant son soutien à une solution policière dure. C'est une expression poussière dure. Je reviens en arrière. 2011, il y a eu un mort, tué par la police. Donc quand on vient sur l'île et qu'on dit qu'on est d'accord avec une solution policière dure, c'est pas le sous-entendu, il est clair. Et d'ailleurs, on va rappeler que récemment, un élu de Mayotte, qui est le vice-consul de l'île, ou je sais plus comment ça se dit, vice-président départemental, je crois, de l'île, a juste dit peut-être faudra-t-il en tuer, en parlant des gens qui avaient pas de papier. Ouais. Donc on voit quand même qu'il y a une rhétorique. Hein. Alors le monsieur est d'extrême droite, hein, pour info, hein, pour si vous cherchez. Alors il est noir, mais il est d'extrême droite. Ça surprend des gens. Hein. J'ai lu des gens qui disent « Mais comment c'est possible ?» Alors oui, c'est possible, je vous rassure. La bêtise n'est pas réservée à une couleur de peau. Mais en tout cas...
C'est quand même assez terrible aussi, quand même, ce mode de réflexion-là.
Oui,
c'est de l'essentialisme inversé, quoi. Ouais, c'est-à-dire parce que t'es noir, tu ne pourrais pas...
Je l'ai lu vraiment sur
des
trucs. C'est ouf, quoi. Je dis, bah non, il est d'un parti classé très, 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 très à droite. En France, on le mettrait quasiment à côté de zéro.
Mais par contre, il est affilié à Renaissance.
Non, alors ça, c'est faux.
C'est bizarre parce que Renaissance a réagi.
Non, c'est une fake news, en fait, qui a été sortie. C'est lui qui a dit qu'il soutenait, sauf que Renaissance a dit, on n'a jamais affilié.
Okay.
Ils attaquent les gens qui ont affirmé
okay,
ça.
Ok, d'accord. Okay.
Et à juste titre, parce que c'est de la diffamation. Et ils ont bien rappelé qu'ils avaient strictement rien à voir. Alors, peut leur mettre plein de trucs sur le dos.
Tu fais bien de le dire.
Non, mais je le rappelle, voilà. Donc Laurent Wauquiez, hein, il va là-bas, il dit il faut mettre les flics, il faut que ça y aille, quoi. Donc face à cela, quand même, il y a quand même des manifestations qui sont organisées par les syndicats de l'île et des associations qui se déclenchent, en fait, pour rappeler que non, Mayotte n'est plus une colonie, hein, et que non, la solution n'est certainement pas la force, mais une vraie continuité des moyens publics. Mais alors, eux, c'est pas l'armée qu'ils appellent, hein, c'est plutôt des hôpitaux, des écoles et une administration qui fonctionne. Parce qu'une des spécificités de Mayotte, c'est d'avoir l'une des administrations qui fonctionne le moins bien. En France, c'est un département, je le rappelle.
Oui.
Donc un rapport d'ailleurs estime qu'un Mahorais a 14 fois plus de chances de mourir d'une crise cardiaque qu'un habitant de la Creuse, par exemple. Donc, on va rappeler que la Creuse, c'est le département le moins bien doté.
Oui, c'est ce que j'allais dire, alors que je pense que quelqu'un qui habite la Creuse a déjà plus de chances de
mourir
qu'un Parisien ou quelqu'un d'une...
Ouais.
Donc
à Mayotte, vous avez 14 fois plus de chances qu'un habitant de la Creuse. Mmh. Voilà, ça limite, hein. Faute de moyens d'urgence dignes de ce nom. Mmh. Bah oui, parce que les moyens d'urgence, ça se paye. Donc entre 2018 et 2023, il y a des manifestations qui vont continuer et d'ailleurs elles portent leurs fruits. Elles imposent notamment une augmentation des salaires, des moyens nouveaux, par exemple des trucs très très bêtes, mais ils ont le droit à la e-administration. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas quelqu'un sur place, on a mis en place à Mayotte des endroits où on peut contacter quelqu'un qui est en métropole via la vidéo pour lui dire bah voilà, mais j'ai un problème, il faudrait quand même le résoudre à un moment donné. Alors, c'est bien sûr, c'est des pis-allers, hein, c'est pas ce qu'ils souhaitent, mais en attendant, ça leur permet quand même de gagner un petit peu de temps. Ils ont aussi des tarifs réglementés, hein, qui ont été imposés pour les liaisons avec la métropole. Oui, parce que jusqu'à maintenant, bah, entre Mayotte et la métropole, il n'y avait pas de tarif réglementé. Donc, il fallait payer plein but. Puis bon, comme Mayotte, c'est quand même pas l'île la plus visitée de France, du coup, parce que c'est un département, ou d'outre-mer, ou voilà. Et ben, en fait, les opérateurs d'avions, ils étaient très très chers. Donc, du coup, bah, quand les gens voulaient venir en métropole, parce que des fois, leurs enfants viennent faire des études ici, par exemple, et ben, ils devaient payer extrêmement cher. Ou d'ailleurs, les enfants, quand ils devaient partir, voilà. Ce qui fait que, par exemple, il y a des Mahorais qui étaient obligés de rester 3, 4, 5 ans sans voir leur famille, parce que c'était trop cher de faire l'aller-retour. Mais dans le même temps, hein, parce que c'est toujours comme ça, on voit émerger des milices dites d'extrême droite réactionnaires qui émergent, tout comme des mouvements soi-disant spontanés, mais portant des discours clairement xénophobes. Alors oui, ça peut vous paraître très étrange, mais là aussi, vous avez des riches noirs qui sont dans ces mouvements. Oui, ça existe.
Ouais, mais justement, enfin, en même temps qu'on en parlait, enfin, et je me suis rappelé que, par exemple, la CIMADE, qui vient, on va dire, en soutien des réfugiés ou autres qui sont à Mayotte, en fait, leurs bureaux ont été bloqués par des Mahorais.
Ouais, tout à fait.
Pendant, je crois, 3 ou 4 mois, voire
alors,
plus, quoi.
Il faut voir qu'il y a une propagande très très forte et qu'il y a des gens qui finissent par adhérer à cette idée.
Oui, mais c'est. Oui,
et, qui, et qui pensent, mais comme en France, avec les plus pauvres, qui viennent à penser, enfin, en France, en métropole, qui viennent à penser qu'en fait, le problème vient des autres qui arrivent. Et c'est en fait, ce discours est fini par passer.
La haine de l'autre n'a pas de frontières.
Ouais, tout à fait. Hein, mais donc. Donc on en est quand même là. Donc, comme toujours, hein, quand un mouvement social fonctionne, certains tentent de le dévier ou de le briser en désignant un ennemi intérieur ou pas. Toute ressemblance avec la métropole ne serait pas fortuite. Et à Mayotte, c'est donc les migrants sans papier qui sont aujourd'hui la cible. Hein, voilà, le migrant sans papier, la cause de tout, c'est bien connu. Voilà, je suis dans l'ironie là aussi. Je le précise parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui croient que je... Voilà. Pensez-vous donc que Darmanin allait passer à côté de telles opportunités? Voilà, ben non. Voilà, non, non, non. Il déclenche donc l'opération Wambushu, qui prévoit donc l'expulsion de centaines de personnes sans papier vers leur pays d'origine, donc principalement bah, les Comores, hein, bah, ce qui est côté, mais aussi des pays du continent africain, Tanzanie, Kenya et Mozambique.
Bah, tu parles de centaines, mais je crois que le gouvernement parlait même de centaines par semaine.
Oui, pardon, j'ai oublié le par semaine.
Et une opération qui doit durer, je ne sais pas combien de semaines, voire plusieurs mois.
Jusqu'à
quoi.
6 mois.
Ouais, c'est ça.
Donc, si nécessaire.
Donc, faites le calcul, c'est des milliers de gens, en fait.
Oui, alors après, il y a quand même des gens, y compris sur place, qui ont dit il y a beaucoup d'effets d'annonce, parce que
ça,
voilà, ça c'est une réalité, et qu'on ne peut pas être à des centaines de personnes. Enfin, sinon, ça voudrait dire que l'île de Mayotte serait quasiment autant habitée que la région parisienne, ce qui est assez peu probable. Voilà, mais donc, du coup, voilà. Mais effectivement, l'annonce, elle est, bah, c'est du Darmanin.
C'est du Darmanin, quoi. Hein, et voilà. Il bombe le torse, quoi.
Exactement. Mais donc aussi, il y a la destruction de bidonvilles, appelés là-bas Bangas, hein, sur place, c'est le nom qu'on leur donne, pour cause d'insalubrité. C'est la fameuse truc qu'on sort à chaque fois qu'on veut virer des pauvres. Hein. C'est insalubre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte que ce soit salubre, on se dit on va les virer.
Et puis on préfère donc être totalement sans abri que dans l'insalubrité. Bah, alors je dis pas, hein, mais juste si c'est pour rien d'autre, bah, je pense que les gens préfèrent rester à la rigueur là où ils sont parce qu'au moins ils ont un toit sur la gueule, quoi.
Et ben en fait, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que c'était sans compter justement les recours qui ont été déposés devant la justice par des syndicats et associations. Alors, syndicats dont je le cite, la CGT, hein, quand même, qui a posé un recours et qui explique que Darmanin se demande aujourd'hui si la CGT ne serait pas sur une piste anti-étatique. Comme je disais dans une interview radio.
Mais oui, parce donc, que. D'accord. Ouais.
Bah parce qu'en fait, on l'interrogeait sur les recours qui avaient été faits à Mayotte et il fait une sortie sur la CGT. Oui, c'est vrai que la CGT était dans les gens qui ont fait des recours. Mais il y avait aussi la CIMADE, il y avait aussi plein de gens. Voilà.
Oui, non, mais là, on retourne de nouveau dans le. Soit c'est avec nous, soit vous êtes des ennemis de l'État. C'est... Alors qu'en fait, je crois pas que la CIMADE ni même la CGT soient anti-étatiques.
Non.
Et c'est pas, grave en soi.
Non,
mais
c'est vrai.
C'est juste. Avec Darmanin, c'est soit avec lui, soit contre la République.
Donc, jamais fait rien. J'ai entendu la phrase, j'ai dit.
Il y a un vrai problème d'égo, le monsieur, je crois.
Donc, et la justice, eh ben, elle a tranché. Parce que, donc, elle a été saisie. Et donc, elle a expliqué que détruire ces bidonvilles, et c'est ce que tu disais, reviendrait à aggraver encore plus la vie des personnes qui y vivent. Et elle s'y est donc, opposée. En disant, en fait, non. Parce qu'il y a un principe premier en France. C'est théoriquement la protection des personnes. Et notamment des enfants. Oui, parce qu'on va rappeler quand même à mes auditrices, auditeurs, parce que M. Darmanin, il l'a oublié, il y a des enfants qui vivent dans ces bidonvilles. Et en fait, eh ben, le droit de l'enfance en France, eh ben, heureusement, c'est un peu amélioré. Donc on ne peut pas trop mettre des enfants dehors. On peut les mettre dans des CRA, c'est pas mieux. Mais voilà.
J'allais dire, oui, c'est...
De centre de rétention administrative. Non mais voilà, je dis ça avec ironie, mais sauf qu'il y a quand même une réalité vraiment derrière, c'est que la justice a estimé que ça mettait en danger notamment des enfants, et elle a clairement fait un arrêté non suspensif, c'est-à-dire que pour pouvoir suspendre cet arrêté, il faut non pas faire simplement appel, mais il faut refaire un jugement. Donc c'est plus compliqué.
Mais ce que je me disais, c'est presque qu'il a eu tort de faire tellement de brouhaha autour de son opération, parce que finalement, des expulsions dans l'Hexagone et ailleurs, il y en a plein, et la justice n'a souvent pas le temps de se retourner pour que les gens en fait soient dégagés.
Bah, c'est pas la justice, c'est souvent les associations qui n'ont pas le temps de poser des plaintes.
Et ce qui fait que ouais, tu te dis, mais en fait... Oui, d'habitude, ça se passe sans problème.
Oui, mais il avait un mouvement social à faire oublier.
Ah oui, c'est vrai.
Donc c'était
tellement d'éléments qui rentrent.
C'était bien de sortir la petite carte. Je lutte contre les méchants migrants.
Et j'affirme l'autorité de l'État.
Bah ouais, toujours. Du coup, l'opération, bah, elle prend un peu l'eau. Et puis, bah, c'est tant mieux, en fait, hein, quelque part. Donc, la justice bloque, les associations et syndicats cèdent et surtout bah, s'organisent, parce que du coup, bah, c'est ça aussi qu'il faut.
S'entraident.
Oui, ils aident pardon, plutôt les gens et ils s'entraident et ils s'organisent. Parce que soyons clairs, hein, comme le soulignent plusieurs ONG, si la violence augmente sur l'île, c'est certes du fait de la pauvreté, mais ça, c'est voilà. Mais aussi, en fait, d'une mesure qui a été prise sous Édouard Balladur. Et alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles d'Édouard Balladur? Mais oui, mais ça,
surtout pour les plus jeunes, Édouard Balladur, je ne sais même pas s'ils savent qui c'est.
Bah, c'était un monsieur qui avait une tête toute bizarre et qui était Premier ministre. Non, mais c'est vrai. Bon, il avait une tête
On s'en fout du physique, mais en tout cas, était un Premier ministre de
droite.
De droite.
Ah oui, bien à droite, hein, Édouard Balladur. On est dans la droite Pasqua, tout ça va. Donc, c'est en fait, Balladur, il a rendu obligatoire l'obtention d'un visa pour passer des Comores à Mayotte. Alors que bien des familles sont réparties sur les quatre îles de l'archipel, donc y compris Mayotte. Mais encore une fois, ce avant même que la France ne devienne le colonisateur de l'île. Hein, voilà. Parce qu'il y a une tradition millénaire en fait, de passer d'une île à l'autre, même si elles sont éloignées. Ben ouais, mais ça peut vous paraître bizarre à vous, mais en fait, les peuples de la mer, ça existe. Des gens qui. Voilà. Bon. Donc c'est cette mesure qui va créer en fait, des situations assez folles. D'abord, une augmentation des bateaux clandestins. Bah oui, parce que quand même, il y a des gens qui veulent quand même se voir. Vous voyez, c'est un peu le truc.
Oui, et puis de toute façon, tu deviens vite clandestin finalement, vu que t'as pas le droit à eux.
Ah oui, parce que le visa, il est super dur à obtenir, évidemment. On est en France quand même, faut déconner. Donc voilà. Donc, mais aussi, en fait, des abandons d'enfants nés sur le sol français, sur l'île, par des parents qui sont en fait eux-mêmes expulsés. Donc en fait, on crée une sorte de situation complètement ubuesque où on expulse des parents, on garde les enfants parce que bah oui, c'est la loi, puis voilà, on protège les enfants. Sauf que du coup, bah, on protège les enfants en les mettant soit chez de la famille proche, soit dans des centres d'aide à l'enfance, mais qui sont plutôt devenus des énormes centres difficiles à gérer. Et en fait, on expulse les parents. Et en fait, les parents, ils les laissent parce qu'ils espèrent garantir un meilleur avenir à ces enfants qu'en rentrant aux Comores. C'est pas idiot parce que les Mayotte, c'est quand même le territoire français et que ça fait plus rêver pour les Comoriens, ça s'entend. Voilà. Mais sauf ça crée en fait une. Alors, si on n'avait pas cette histoire de visa, ce serait beaucoup plus simple en fait, mis bout à bout. Hein. Et donc, du coup, le nombre d'enfants et d'adolescents sur l'île est énorme au vu de la population. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de Jean a fait beaucoup d'enfants pour arriver au nombre qu'on est. Et cela, en fait, ça peut qu'entraîner en fait, la montée des violences. Voilà. Mais ce n'est pas la faute des enfants. C'est la faute du fait que quand on n'a pas de quoi donner à tout le monde, ça crée des tensions. Et voilà. Alors, pour reprendre les mots d'un habitant, et je l'ai trouvé très juste. Alors, ça vient de la première, c'est ça, ouais, le truc de France Télévisions.
Oui, oui,
ouais.
Oui.
En fait, il a expliqué quelque chose que j'ai trouvé très juste. Et j'ai repris mot pour mot ce qu'il dit. Il a dit « Ce qui se passe au Brésil avec les favelas se passe à Mayotte avec les bangas ici. Même cause, même effet. Mais s'en prendre aux populations ne marche pas. Bolsonaro l'a fait, cela n'a fait que précipiter encore plus les délogés vers les gangs qui leur assuraient un minimum pour vivre. Ici, cela sera pareil. Ce dont nous avons besoin, c'est de structures pour accueillir les enfants, d'écoles, d'hôpitaux, mais certainement pas de 1800 policiers armés jusqu'aux dents. Et il nous faut aussi réfléchir avec les Comores à reprendre les moyens de voyage réguliers et clairs. Et en fait, c'est tout bête, la solution, elle est là. Mais sauf que Darmanin, il fait tout l'inverse. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est de se dire, tu voudrais pas créer une situation volontaire, là, un petit peu? Un petit peu, quand même. Alors, ouais, parce que j'avais pas encore parlé des flics. Hein, je voulais parler du truc, mais bon. Alors, entre ceux déjà sur place, juste quand même pour info, sur place à Mayotte, il y a déjà beaucoup, beaucoup de gendarmes. Hein, c'est une zone, voilà. Et ceux amenés de la métropole vers Mayotte, c'est donc pas loin de 2000 policiers en armes qui se retrouvent sur l'île. Voilà. Et les armes, eh ben, en fait, ils s'en servent. Plusieurs témoignages et vidéos ont démontré que les policiers ont tiré délibérément au sol ou au-dessus de la tête des manifestants ou d'habitants en colère à balles réelles. Oui, oui. Avec des vraies balles dedans. Alors, je sais, on s'en fout, hein, parce que c'est des noirs. Bah ouais, parce que j'ai bien vu que ça avait pas fait vraiment frémir grand monde. Mais non, en fait, c'est horrible, mais c'est un peu comme quand on s'en foutait, globalement, dans la métropole, quand les méthodes des flics qu'ils utilisent aujourd'hui contre tout le monde étaient utilisées dans les quartiers pauvres. Mais c'est le même cause, même effet. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais sauf que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est loin. Puis en plus, c'est des noirs. Voilà, bah en fait, sauf que, vous voyez, c'est ça qui est derrière ce racisme systémique dont certains dénoncent. Il est là aussi, dans cette non-réaction-là, en fait. Donc, je prends le terrible pari, à titre personnel, que cette méthode de tir à balles réelles sera rapidement incluse dans le schéma de maintien de l'ordre et que l'on verra, à ce moment-là, en métropole, des gens dire que c'est la première fois que cela arrive. Sauf que non, c'est déjà arrivé, en fait. Et il est inadmissible que ça arrive.
Et normalement, si des images sortent, Darmanin, normalement, 2-3 heures après, devrait dire il ne s'est rien passé.
Non, il a dit que c'était parce qu'ils avaient craint pour leur vie.
Voilà. C'est ouais. Ça, c'est comme à Sainte-Soline, comme dans les quartiers. Non,
alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même. Alors, vous cherchez sur Internet, vous cherchez Mayotte, police, balles réelles, vous trouverez assez facilement, enfin, gendarmes, parce que c'est des gendarmes. Et en fait, c'est assez fou, parce qu'on voit la vidéo, et je ne sais pas si ces policiers sont très mal formés, mais je ne vois pas pourquoi ils ont peur. Parce qu'il ne se passe rien de.
Oui, mais c'est
extraordinaire, je veux dire.
Non, voilà, mais c'est comme à Sainte-Soline, quand, quand ils ont tiré et tout avec du flashball, etc.
C'est ça, ouais. Ou des grenades
des encerclements. Alors que vraiment, les flics n'étaient pas du tout en danger, je veux dire, faut arrêter les conneries.
Ah oui,
quoi.
Clairement. Oui,
ou alors, si c'est ça le danger, en fait, oui, effectivement, il va falloir s'attendre à avoir beaucoup de tirs très rapidement et
c'est
très
ça.
Souvent. Quoi.
Et moi, je pense que cette technique, c'était une façon d'entrer quelque chose, de se dire, est-ce qu'on peut le faire sans que finalement personne ne gueule, parce que c'est un peu ça l'idée. Et puis, comme personne n'a gueulé, bah, on risque de le voir arriver bah, d'abord dans les quartiers les plus pauvres en métropole. Et puis, finalement, après, ça se généralisera et puis on trouvera ça normal et puis ce sera excusé parce que voilà. Et en fait, c'est tout le problème, c'est que, en fait, l'asservissement policier d'une nation, ça se fait comme ça en fait, et ça se fait par à-coups. Donc le gouvernement français, en particulier son ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est le vrai nom du ministère, et en même temps c'est quand même un nom qui pue bien, agissent donc à Mayotte comme il l'aurait fait dans une colonie, ni plus ni moins. Mais en fait, comme ils sont dans une logique d'avoir gardé un territoire qui devrait ne pas être un territoire français, on est dans le cadre vraiment d'une colonie. Ben voilà. Parce qu'on le veuille ou non, hein, c'est que cette île, elle est quand même restée sous le giron français pour des raisons stratégiques, plus qu'autre chose. Hein, pas se mentir. Alors, ça peut faire bizarre quand je dis ça, mais ça me fait doucement sourire quand la France dit à la Chine que Taïwan, c'est pas la Chine. Moi, je suis d'accord, parce que Taïwan, c'est pas la Chine. Mais ce serait bien que la France montre l'exemple en se disant que, bah, en fait, Mayotte, c'est pas la France. Bah, je dis ça comme ça, pas personnellement. Maintenant, il faut clairement ne pas se désintéresser de ce qui s'y passe. Et je suis allé un peu vite. Ça veut pas dire que si les Maoris ont envie de rester, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils s'en aillent, hein, c'est pas tout mon propos, mais il faudrait quand même qu'on leur laisse le droit et le choix. Et sauf qu'aujourd'hui, on laisse ni le droit ni le choix. Donc, on estime que c'est français, point barre. On l'a départementalisé, machin. Comme on l'a fait avec la Guyane, comme on l'a fait avec la Réunion.
Bah oui, mais je trouve que ça revient aussi, enfin, on pourrait étaler le sujet sur plein de trucs, mais ça revient sur aussi cette notion de vote là,
de référendum.
De référendum,
ça
en fait.
C'est un truc, un référendum.
Quelle question, comment la poser, qui a les moyens de soutenir le oui ou le non, etc. Et en fait.
Dans les années 70, ils ont bien démontré, d'ailleurs, j'ai lu, alors je vous invite à les lire parce que je n'ai pas voulu les résumer là, mais je vais faire vite fait une parenthèse là-dessus. Il y a plusieurs journalistes qui ont fait une étude, une enquête, pardon, journalistique, et qui démontrent que, par exemple, il y a des moyens énormes qui ont été mis par les propriétaires, qui étaient tous issus de la métropole au départ, qui sont des gros propriétaires à Mayotte, et qui ont payé des campagnes de pub, c'est des ça. Affichages, qui faisaient de la propagande dans les usines, qui expliquaient aux gens que si l'île elle devenait indépendante, eux ils s'en allaient, et que du coup il n'y avait plus de travail. Enfin, ils ont fait peur de toutes façons possibles. Et donc, ça s'oriente toujours un référendum. C'est pas, pour moi, je ne crois pas à cet outil comme étant une expression neutre du peuple. Ça, c'est une grosse connerie, parce que ça ne reste qu'une campagne électorale comme une autre.
Hein, c'est ça. Voilà. Et voilà, enfin, c'est juste, ça fait lien, quoi.
Donc du coup, il faut clairement ne pas se désintéresser d'un de ce qui s'y passe. Je disais, c'est aussi en fait un laboratoire des futures lois immigration et autres qui vont être appliquées ensuite en métropole. Déjà qu'aujourd'hui, la France est un des pays les plus répressifs et oppressifs. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais rappeler quand même qu'il y a des associations qui tirent la sonnette d'alarme, car le nombre d'enfants enfermés dans les centres de rétention administrative, c'est-à-dire c'est des prisons, avec leur famille, n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Mais aussi et surtout, en fait, on est l'un des pays d'Europe qui accueille le moins de réfugiés. Va falloir un petit peu arrêter d'en faire un vrai sujet. Ah si, pour moi c'est un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment on peut accueillir plus de monde. Parce que la France aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, c'est honteux. C'est-à-dire que on est le pays d'Europe en fait où on fait rentrer quasi personne. Et puis quand ils rentrent, on les remet vite dehors. Mais ce qui est parce qu'on montre du doigt l'Italie souvent. Ça sert aussi de cache-sexe, vous savez. Oh là là, Mélanie, elle est méchante. Ah, Mélanie, elle est méchante, c'est une fasciste, j'ai pas de problème à le dire. C'est une saloperie. Mais par contre, faudrait pas croire que ce qui est pratiqué en France est si éloigné de ce que fait Mélanie en Italie. En fait, on est déjà en train d'appliquer une politique à la Mélanie en France. Voilà, faut pas arrêter de se mentir et se dire clairement. Donc, Darmanin tente à Mayotte ce qu'il rêve de faire partout, n'en doutons pas. Et surtout, combattons-le. Parce que c'est ça surtout qui est très important, c'est de ne pas laisser les Mahorais tout seuls, et surtout ceux qui n'ont pas envie de subir tout ça, et puis de vraiment combattre. Et juste quand même, je le dis parce que j'ai lu quand même pas mal de conneries en préparant ce sujet. Amis métropolitains, donc ceux qui habitaient la métropole, arrêtez d'avoir une vision très exotique des îles qui sont là-bas. Voilà. Arrêtez de croire que les gens n'y réfléchissent pas, ou qu'ils ne seraient pas politisés, ou qu'ils ne seraient pas syndiqués, par exemple. Vous voyez, arrêtez de les voir comme vous les imaginez encore.
Des sauvages, en fait. Non, mais parce que tout ce qui est sous-jacent, je trouve, de tout ça, c'est vraiment ça.
Non, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent pourquoi en fait ils se battent, et surtout qui savent en fait qu'on essaye de les maintenir. En fait, j'ai lu beaucoup de témoignages de Mahorais qui disent, eux ils savent pas s'il faut qu'ils restent français ou pas. En fait, c'est pas le problème. Ce qu'ils voient simplement, c'est pas le problème. C'est que ce qu'ils disent, c'est qu'en fait aujourd'hui ils sont pris entre deux propagandes très violentes, très complexes. Alors une qui est celle qui vient des Comores. Qui veulent récupérer l'île et qui racontent, comme ils le disent, à peu près tout et n'importe quoi sur ce qui se fait sur l'île, et ce qui est légitime, parce que c'est aussi une volonté de vouloir récupérer un territoire.
C'est voilà. Un discours contre discours.
Mais ils disent, mais c'est tellement tordu des fois, quoi. Ils disent, mais faut qu'ils arrêtent, quoi. Enfin, voilà. Et de l'autre côté, une propagande de droite et d'extrême droite est très étatiste et très patriotique. Et en fait, ils disent, mais nous, on est pris entre deux feux, en fait, et on a l'impression que personne nous entend. C'est-à-dire que personne veut juste comprendre que nous, on a juste envie de vivre tranquille et de pas être pris entre ces deux feux là. Voilà, et donc c'est important mais arrêtez de, enfin je pense j'ai lu des trucs pour des gens qui disaient mais parce qu'il y a des gens qui travaillent à Mayotte, enfin, bref voilà, c'est des gens progressistes qui écrivent ça, voilà, bref, intéressez-vous à ce qui se passe là-bas et on va mettre un peu de musique.
Allez.
Nitahua, nitengedi.
Et voilà, et vous êtes dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et elle est mahoraise et elle s'appelle Zili. Et là-bas, elle fait un carton et son titre, c'était Amani. Et donc, c'est un hymne aux femmes. Voilà, tout simplement. Vous allez voir le clip, il est sous-titré, vous comprendrez, c'est vraiment un hymne aux femmes. Et donc là-bas, demain, c'est le 1er mai. Et
ouais,
Jean-Yves, il s'est dit, bah quand même, est-ce que tout le monde y sait d'où ça vient le 1er mai ?
Eh ouais, c'est la fête du muguet,
ouais,
c'est tout
c'est
ça.
C'est la fête du travail, des fêtes, tout ça.
Ça. Et en fait, bah, l'origine et la signification libertaire, écoutez bien, hein, du 1er mai, bah, sont en fait tombées quand même beaucoup dans l'oubli. Parce que oui, en fait, le 1er mai est bien un événement majeur en fait, de l'histoire du mouvement ouvrier. Et plus particulièrement de l'anarchisme que nous commémorons désormais sans connaître en fait bah, l'origine justement en fait. Et l'idée c'est bah, j'ai repris ce texte de Norman Baillargeon qui l'explique très bien et voilà j'avais quand même envie de partager ça avec vous auditeurs auditrices. Alors peut-être que vous êtes toutes et tous au courant, mais bah, si vous l'êtes tant pis pour vous et si vous l'êtes pas bah tant mieux. J'aurais pas fait ça pour rien. Alors ce qui fait que oui en fait entre bah, la fête du travail, la fête des travailleurs et des travailleuses ou encore la fête du muguet, ben il est effectivement bon quand même de se rappeler de l'origine anarchiste du 1er mai. Et pour ça, ben, je vous propose de remonter dans le temps, et plus précisément en 1886 à Chicago, en the States. Dans cette ville, en fait, hein, comme dans tout le pays, ben, le mouvement ouvrier est particulièrement riche, vivant et actif. À Chicago, comme dans bien d'autres municipalités, pardon, les anarchistes sont solidement implantés. Des quotidiens libertaires paraissent, et même dans des langues différentes en fait, liées aux différentes communautés d'immigrés. Et le plus célèbre des quotidiens anarchistes de Chicago, le Arbeiter Zeitung, c'est quand même dire, hein, c'est allemand, tire en 1886 à plus de 25 000 exemplaires.
C'est énorme. Hein.
C'est... oui, c'est incroyable en fait. Cette année-là, en fait, le mouvement ouvrier combat pour la journée de 8 heures.
C'est historique, hein, la journée de 8 heures, c'est un des trucs qui a fondé le mouvement ouvrier, vraiment.
Et les anarchistes, hein, ils sont engagés. Mais avec leur habituelle lucidité. C'est-à-dire que la journée de 8 heures pour aujourd'hui, certes, mais sans perdre de vue que le véritable objectif à atteindre est l'abolition du salariat. L'abolition du salariat. Quand je sais qu'aujourd'hui encore, certains anarchistes aiment tellement le travail et tout ce qui s'ensuit, ben je trouve que c'est intéressant de se le rappeler. Le mot d'ordre de grève générale hein, du 1er mai 1886 est abondamment suivi, et tout particulièrement à Chicago. Alors il faut savoir que pourquoi le 1er mai, en fait, bah la date n'est pas choisie par hasard. En fait, à cette époque, le premier jour de mai aux États-Unis correspond à la nouvelle année comptable pour les entreprises. Ce jour, il est aussi appelé le Moving Day, car bah, de nombreux contrats de travail d'ouvriers prennent fin, ce qui les pousse à déménager pour trouver un emploi ailleurs.
C'est là d'ailleurs qu'ils sont nés, les hobos. Voilà, ceux qui déménageaient pour trouver du
travail.
C'est ça. Ouais.
Ce jour-là, hein, donc le 1er mai, August Spies, un militant bien connu de la ville des Vents, est un des derniers à prendre la parole devant l'imposante foule de manifestants. Au moment où ceux-ci se dispersent, la démonstration, jusque-là calme et pacifique, tourne au drame. 200 policiers font irruption, chargent les ouvriers, il y aura un mort et des dizaines de blessés. Spies, donc August Spies, file au Arbeiter Zeitung et rédige un appel à un rassemblement de protestation contre les violences policières. 1886, c'est fou.
Déjà
hein.
À l'époque.
Et ouais, hein, comme quoi finalement, la flicaille a toujours été du même côté, du côté du bâton. Et elle se tient donc cette manif contre les violences policières hein, bah, le 4 mai à Haymarket Square de Chicago. Ok ? Cette fois encore, tout se déroule dans le calme. Spies prend la parole, ainsi que deux autres anarchistes, Albert Parson et Samuel Fielden. Le maire de Chicago, un certain Carter Harrison, assiste à la manifestation. Et alors qu'elle s'achève, en fait, bah, il est convaincu que rien va se passer. Il en avise donc le chef de la police, l'inspecteur John Bonfield, et lui demande de renvoyer chez eux les policiers postés à proximité. Il est 10h du soir, il pleut abondamment, Fielden a terminé son discours, le dernier à l'ordre du jour. Les manifestants se dispersent, il en reste quelques centaines dans le Hyde Market Square. Soudain, 180 policiers surgissent et foncent vers la foule. Fielden proteste, puis venu d'on ne sait où, une bombe est lancée sur les policiers. Elle fait un mort et des dizaines de blessés. Les policiers, évidemment, ouvrent le feu sur la foule et ils tuent, la police tue, on ne sait pas exactement combien de personnes. C'est marrant, hein, là aussi, on n'a jamais su compter les morts que fait la police. Hein, y a vraiment un problème de comptabilité, quoi. Une chasse aux sorcières est évidemment lancée dans toute la ville. Hein. Les autorités sont furieuses, il faut des coupables et ils sont tous désignés. Ce seront 7 anarchistes qui seront arrêtés. Pour ne pas les oublier, je vais les citer, c'est August Spice, donc Samuel Fielden, Adolf Fischer, George Engel, Michael Schwab, Louis Ling et Oscar Niebe. Un huitième nom s'ajoute quand Albert Parsons se livre à la police, persuadé, lui, en fait, qu'on ne pourra pas le condamner, en fait, puisqu'il est innocent, comme les autres, en fait. Hein. Parce qu'en fait, il y a quand même une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que seuls 3 des 8 suspects étaient présents à High Market Square le soir de ce 4 mai fatal, en fait. Donc là aussi, hein, je trouve qu'il y a... Voilà, quand on repasse dans le passé, je trouve qu'il y a toujours des choses qui ont une résonance quand même avec aujourd'hui. Hein. Le procès des 8 s'ouvre donc le 21 juin de la même année, 1886, à la cour criminelle de Cook County. On ne peut et on ne pourra prouver qu'aucun d'entre eux ait lancé la bombe, qu'aucun d'entre eux ait eu des relations avec le responsable de cet acte, ou les mêmes approuvés. D'emblée, une évidence s'impose à tous. Ce procès est moins celui de ces hommes-là que celui du mouvement ouvrier en général et de l'anarchisme en particulier. La sélection du jury tourne à la farce et finit par réunir des gens qui ont en commun une chose, leur haine des anarchistes. Y siège même un parenté du policier tué. Là, pour avoir une justice, c'est vraiment le meilleur moyen. Le juge Gary hein, ne s'y est pas plus trompé que le procureur Julius Grinnell qui déclare, dans ses instructions au jury, je le cite, hein, « Il n'y a qu'un pas de la République à l'anarchie. C'est la loi qui subit ici son procès en même temps que l'anarchisme. Ces 8 hommes ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent. Messieurs du jury, condamnez ces hommes, faites d'eux un exemple, faites-les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société. C'est vous qui déciderez si nous allons faire ce pas vers l'anarchie ou non. » Je crois que c'est assez clair. Hein. Donc le 19 août, hein, évidemment, tous sont condamnés à mort, à l'exception d'Oscar Niebe, qui écope de 15 ans, lui, de prison. Le procès est à ce point ubuesque qu'un vaste mouvement de protestation internationale se déclenche. Il réussit à faire commuer en prison à vie les condamnations à mort de Schwab et Fielden. Ling, pour sa part, lui se pendra dans sa cellule. Le 11 novembre 1887, Parsons, Engel, Spice et Fischer sont pendus. Ce sont eux que l'histoire évoque en parlant des martyrs de High Market. Plus de 500 000 de personnes se pressent à leurs funérailles. C'est pour ne pas oublier cette histoire qu'il sera convenu de faire du 1er mai un jour de commémoration. Niebe, Schwab et Fielden, eux, seront libérés officiellement le 26 juin 1893, leur innocence étant reconnue ainsi que le fait qu'ils ont été victimes d'une campagne d'hystérie et d'un procès biaisé et partiel. Ce qui reste cependant très clair, ce sont les intentions de ceux qui condamnèrent les martyrs de Chicago. Briser le mouvement ouvrier et tuer le mouvement anarchiste aux États-Unis. Le jour même, où avait été annoncée la condamnation à mort des 4 anars, on avait communiqué aux ouvriers des abattoirs de Chicago qu'à partir du lundi suivant, ils devraient à nouveau travailler 10 heures par jour. Il reste donc quand même une question irrésolue jusqu'à ce jour. Qui a lancé cette bombe ? Alors évidemment, de nombreuses hypothèses ont été avancées, à commencer par celle accusant un policier travaillant pour Bonnefield. Et alors là, évidemment, on est aux États-Unis, mais il faut savoir que 3 ans plus tard, en 1889, 3 ans après le.
Oui, 3 ans plus tard.
Ouais, après les événements. Oui, mais parce que là, je parlais d'autres dates avant. Lors de la seconde internationale socialiste à Paris, il est décidé, sous l'impulsion de Jules Guesde, Guest, de faire de la date du 1er mai une journée pour revendiquer la journée de 8 heures. Je cite, « Parmi les revendications les plus notables de la Seconde Internationale se trouve la journée de 8 heures, demandée dès 1884 par les syndicats américains. C'est donc en référence à ces syndicats et leur lutte que le 1er mai sera instauré chaque année une manifestation en faveur de la journée des 8 heures. Et pour pas, enfin pour compléter un petit peu, parce que ça on l'oublie un petit peu, mais il faut savoir quand même qu'en 1891, il y a une manifestation en France, dans le nord hein, de la France, à Fourmies, qui tourne au drame. Malgré les interdictions patronales, les grévistes défilent dans cette cité du textile du nord. Des troupes de l'armée tirent sur les manifestations, faisant une dizaine de morts. Avec ce nouveau drame, le 1er mai s'ancre dans la tradition ouvrière et restera une journée de manifestation après le vote par le Parlement en 1919 de la journée de 8 heures. Bref, loin d'être la fête du travail ou des exploités ou encore du muguet, le 1er mai est en fait une journée de commémoration et de lutte internationale. De Chicago à Paris, de Bandung en Indonésie à Marikana en Afrique du Sud, on n'oublie pas et on continue de souhaiter une seule chose, plus la mort des salariés, mais la mort du salariat. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est toujours important quand même de se rappeler que, initialement, quand même beaucoup de gens se sont battus, et il en reste encore, pour que crève l'exploitation salariale en fait. Et ça, c'est un truc quand même qu'on oublie beaucoup. Il y a effectivement, il y a la lutte d'aujourd'hui. Il faut évidemment lutter pour, enfin, comme le disaient les anards au début, hein, dire que oui, aujourd'hui, c'est la journée du travail. C'est la double besogne. Ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que là, il y a tout de suite maintenant l'urgence, ou en tout cas, ne pas.
Et il y a le futur.
Et il y a le futur, en fait. Et je trouve que là aussi, en fait, je pense que ça participe un peu à. En fait, enfin, on en a déjà parlé, je crois, ici. C'est un peu la mort quand même des idées de gauche, quoi. Et je pense que, alors là, on n'est pas dans des idées de gauche, on est dans des idées d'anarchistes, ce qui va plus loin que ce jeu de droite-gauche, ben c'est de dessiner des nouveaux, de nouveaux horizons,
des
en fait.
Des nouveaux possibles.
Mais oui, toujours. En fait. Et que quand on voit aujourd'hui qu'à gauche et tout, on nous parle de fierté ouvrière, machin, enfin que c'est le travail.
C'est les bolcheviques.
Ouais, mais sauf que t'en as encore aujourd'hui, ouais. Hein, je veux dire, les méluches.
Non,
et
mais
tout,
ça vient du courant
c'est
bolchevique.
C'est ça. Mais que tous ces méluches et autres copains, les petits patrons, comment ils s'appellent, Ruffin, etc., etc., en fait, ouais, ils veulent tous qu'on se libère par le travail. Mais en fait, on ne peut pas se libérer par une aliénation. Ben. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou, quoi. Donc voilà, donc j'avais quand même envie de parler de ça parce que trop souvent on est dans ce truc un peu ambigu de la fête des travailleurs, machin. Non. Il n'y a pas de quoi être fier d'être exploité.
C'est une journée de lutte internationale pour les droits et des travailleurs.
C'est exactement ça. Il n'y a pas de quoi être fier d'être exploité.
Ah non.
Par contre, il faut se défendre. Ça, oui.
C'est ça.
Donc voilà, c'était juste ça parce que vraiment, je fais
juste une parenthèse parce que pour vous rendre compte, parce que il y a beaucoup de gens qui savent pas ça, mais aux États-Unis, en fait, on a voulu effacer complètement le mouvement ouvrier et ça a été le cas d'ailleurs pendant près de 70 ans. Et donc il y a eu des massacres, il y a eu ça. Et surtout, il y a eu une loi qui a été votée au niveau fédéral qui fait qu'aux États-Unis, la journée officielle des travailleurs, c'est en septembre. Alors dans le calendrier officiel fédéral.
Mais j'ai lu des choses là.
Et en fait, il y a une espèce de truc qui fait que il a fallu se réapproprier aux États-Unis ce 1er mai, et notamment, je peux saluer là l'IWW américaine qui est un syndicat très puissant, enfin, qui est de plus en plus puissant, qui reprend des poils de la bête, et qui a remis le 1er mai en fait un petit peu au goût du jour, en rappelant pourquoi. Mais il y a une complexité à y mettre. Enfin, il faut quand même jamais oublier que partout dans le monde, on essaie d'effacer l'histoire des travailleurs, des travailleuses, des exploités, des opprimés, systématiquement. Et que le 1er mai fait pas exception. Si en France, on parle de fête du travail, c'est parce qu'un certain Pétain a décrété en 1941 que le 1er mai était la fête du travail. Ça ne s'est jamais appelé comme ça, sauf depuis que Pétain l'a décidé. Et le problème, c'est qu'on continue aujourd'hui à avoir des médias, des gens en général,
des
qui continuent, ou même des gens de vos amis, qui disent c'est la fête du travail. Ça n'est pas la fête du travail. Le problème, on ne fête pas le travail. En fait, c'est une journée chômée où on ne travaille pas, où on est en grève, théoriquement en France, bah, c'est payé, mais voilà, où on est en grève, et où en fait, on revendique les droits des travailleurs, et surtout, on revendique le droit des travailleurs à ne pas être opprimés par le travail. Donc, c'est pas la fête du travail, ce serait plutôt l'inverse.
Et finalement, je trouve que, en fait, quand tu dis ça, d'un coup, c'est une résonance aussi, genre, avec le 8 mars. Le 8 mars, c'est la fête des femmes. Mais pas du tout, en fait. C'est une journée de lutte, en fait.
C'est toutes les oppressions.
Et ça, c'est vraiment, il y a quelque chose de... il faut se réapproprier ces choses-là et continuer de dire, bah non, en fait, ce n'est pas la fête du travail.
Non, non.
Quoi qu'on aimerait en dire les fanatiques du travail, non. Et que là aussi, en fait, c'est que je trouve que c'est intéressant de se dire, en fait, l'aspiration des exploités depuis longtemps, ou en tout cas une partie d'eux, en tout cas chez les anards, et une partie des anards, j'ai presque envie de dire, c'est se défaire de l'exploitation salariale,
mais
en fait.
Je crois que chez une grande majorité de gens qui subissent le salariat, c'est une envie. Après, c'est comment... c'est comment on le concrétise et comment on s'en donne l'envie. Et je pense qu'en se réappropriant ces journées-là, en faisant quelque chose de symbolique, parce qu'il faut du symbole aussi dans la vie, et malheureusement, et ben ça permet aussi de se réinterroger, de se dire, ah ben oui, en fait, on pourrait peut-être gérer la société autrement, différemment, et pour d'autres raisons.
Et vous avez le droit de le penser.
Ça
ne veut pas dire qu'on va retourner dans une société où on ne fera plus rien. Parce que on le sait toutes et tous que il faut continuer de faire à bouffer, il faut continuer de faire de choses, en fait. Mais c'est juste qu'on ne veut plus s'organiser en laissant notre liberté à un patron. C'est ça, en fait. Donc voilà, enfin bref, on pourrait en parler encore des heures, mais là on n'a pas le temps parce que là on a un message à faire passer. Et je crois que c'est Clara qui va appuyer sur play et ça sera parti.
Hey, les rappeurs, vous pouvez trembler, c'est la game mafia dont je suis l'avocat.
This is a fucking game mafia, my man.
Rap de PD, c'est du rap de PD, tant pis si je déçois papa, tant pis si je déçois pépé. Rap de PD, c'est du rap de PD, tant pis si je déçois papa, tant pis si je déçois pépé. Hey, elles sont hardcore et arriérées vos conceptions.
Hardcore,
quand c'est Satan et thérapie de conversion.
Hardcore,
t'es bien plus con que le plus con de tes papis.
Hardcore,
t'es homophobe qui défile en plein Paris. Mort à l'époque où l'arc-en-ciel n'avait pas de succès. L'époque où si tu suçais, tu finissais sur le bûcher. Tous ces fantômes du passé reviennent pour te hanter. Avec l'arrogance d'un rentier et de la violence en concentré, ils ne pourront plus rentrer, la porte on va la sceller. Tu seras plus jamais sali, plus jamais esselé. Restons libres, insolents, même si l'addition est salée. Nathalie Sorlin, je fais partie de tes alliés. C'est pas les Yakuza, c'est pas la Camorra, c'est pas la MS-13 ni la Cosa Nostra. Tu sais ce que ça te coûtera de défier nos soldats. Elle a pas besoin d'aide, mais je plaide en tant qu'avocat de la guerre. Mafia, guerre, mafia, guerre, mafia, mafia, guerre. Mafia, c'est la guerre. Mafia, guerre, mafia, guerre, mafia, mafia, guerre. Mafia, tu désignes des fautifs. Des gros kicks, t'as pas de cœur, mais dans ta tête tout est arbitraire et logique. Pensée érotique, loin de tes sottises. J'organise une partouze avec Mohamed, Jésus et Moïse. Je sais que ça te terrorise, mais ce n'est que de l'amour. Au fond t'es peut-être un peu trop émotif. Homophobe, je te ferai la cour. Rap de PD, c'est du rap de PD, mais tu peux pas t'empêcher de péter ta tête sur mon CD. T'as tapé pétillé sur mon legging grillé. Jeans slim serré, ton rap je m'en vais l'égayer. Pas la peine de brailler sur moi t'as fantasmé, mais jamais tu vas avouer que tu me préfères à tes tasmés. Tes envies font de l'apnée, t'aimerais les laisser aller, mais le drame c'est qu'aux yeux des autres tu serais comme castré. C'est pas les Yakuza, c'est pas la Camorra, c'est pas la MS-13 ni la Cosa Nostra. Tu sais ce que ça te coûtera de défier nos soldats. Elle a pas besoin d'aide, mais je plaide en tant qu'avocat de la guerre. Mafia, guerre, mafia, guerre, mafia, mafia, guerre. Mafia, c'est la guerre. Mafia, guerre, mafia, guerre, mafia, mafia, guerre. Mafia,
mafia, guerre, mafia, guerre, mafia, mafia, guerre. Mafia, c'est la guerre. Mafia, guerre, mafia, guerre, mafia, mafia, guerre. Mafia,
c'est pas les Yakuza, c'est pas la Camorra, c'est pas la MS-13, c'est la Cosa Nostra. Tu sais ce que ça te coûtera de détruire nos soldats. Elle a pas besoin d'aide, mais je plaide en tant qu'avocat de la guerre. Mafia, guerre, mafia, guerre, mafia, mafia, guerre. Mafia, c'est la guerre. Mafia, guerre, mafia, guerre, mafia, mafia, guerre. Mafia.
Bah, si t'as pas compris le message, c'est que t'as les oreilles bouchées. Hein. Et donc, c'était donc Irascible avec le titre Gay Mafia. Mais, et ouais.
Mais quand même, moi je trouve que sur Radio Canu et dans La Causerie, on parle de choses assez peu orthodoxes. Et franchement, vous allez pervertir les enfants. Hein, voilà, je voulais quand même donner ce message. Pardon. Je craque, j'en peux plus tous ces gens qu'on voit partout et qu'on entend partout. Voilà.
C'est ça, mais elle fait du bien pas, cette ouais. chanson justement. Elle fait
du bien, vraiment.
Elle
quoi.
Permet de se lâcher un petit peu. Là. Donc voilà, Irascible avec le titre Gay Mafia. Ouais,
si les réacs pouvaient crever, mais il y aura pas assez de place dans les cimetières. Bon, alors.
C'est quoi?
Si les réacs pouvaient crever, mais on va manquer de place dans les cimetières.
Ah ouais. On va faire une crémation.
Allez. Du coup, on va quand même parler de demain, c'est le 1er mai, et le 1er mai, il y a un appel à une manif intersyndicale, parce que voilà, et que vraiment bah, très intersyndicale.
Et puis on peut quand même dire, c'est syndical. Super étonnant, parce qu'en tout cas à Lyon, mais je pense dans d'autres villes aussi,
ça fait
la CFDT faisait toujours bande à part sur les quais du Rhône.
Pas que la CFDT, la CFTC aussi.
Oui, aussi.
En fait, ça fait 19 ans qu'il n'y a pas eu de manifestation intersyndicale. Mmh. Aujourd'hui, c'est à l'appel de 13 syndicats et de 5 organisations de jeunesse, donc quand même ça fait du monde. Et donc, c'est à partir de 10h, place Jean Jaurès. Alors, petit rappel, il n'y a pas de TCL, il n'y a pas de transport en commun le 1er mai, traditionnellement, à Lyon. C'est une très bonne chose, si vous gagnez ce jour de repos. Donc, faut s'organiser pour se covoiturer et tout ça. Et l'arrivée est à Bellecour, ce qui est pas très long en fait, hein, comme parcours. Enfin, ça fait pas trop long, mais en tout cas voilà. Sachez que ça part de Jean Jaurès et que ça arrive à Bellecour. Alors il y a plein d'appels à plein de collectifs.
Oui, ce que j'allais dire, il y a un petit qu'on peut espérer gros. En tout cas, il y a un cortège rouge et noir. En tout cas,
voilà.
Oserais-je dire anarchiste.
Il y a aussi un pink bloc, il y a aussi un cortège féministe. Ouais. Enfin voilà, bon, vous mettez là où vous avez envie d'être.
C'est ça.
Et puis ça va bien se passer, ça va être cool. Et après, si vous voulez, vous pouvez venir au 1er mai de Radio Canu, place Satonnet. A priori, il y aura un repas de quartier, mais qui dit repas de quartier dit tu le sors du sac, et en grande partie. Et Canu devrait offrir un petit truc à boire, normalement. Voilà. Sinon, c'est pas tout, c'est que le mardi 2 mai, il y a une mobilisation contre la fabrique des sans-papiers, hein, par le collectif Bouge ta Pref, que je vous invite vraiment à suivre parce qu'ils font du super boulot. Donc ils appellent entre 12h et 14h à venir se réunir derrière la préfecture du Rhône pour l'application des règles de droit pour toutes et tous et par l'État lui-même, hein, parce qu'il se met des règles mais il s'en fout. Personne n'est au-dessus des lois, pas même la préfecture du Rhône. Venez nombreux pour exiger le respect des droits et de la dignité des personnes vivant et travaillant en France. Voilà, donc c'est entre 12h et 14h à l'arrière de la préfecture. Et il y a un dernier truc que je voulais dire que j'ai perdu, mais ça va pour... Ouais. Oh, c'est bon, j'ai tout. Ah si, pardon, c'est pas dans l'agenda. Ouais. C'est... oui, vas-y.
Je voulais dire que nous ne serons pas là la semaine prochaine. On vous fera des vacances, si vous ne supportez pas. On a pensé à vous...
Ils ne nous écoutent pas.
Hein ?
Ils ne nous écoutent pas dans ce cas.
Rappelle-toi, au début de la causerie, on recevait quand même très souvent des appels d'un monsieur qui nous aime pas, et pourtant il nous appelait, quoi, donc c'est quand même la psychologie humaine, des fois assez mystère et ses incompréhensions. Donc nous on ne sera pas là dimanche 7 mai, donc on vous donne rendez-vous le 14 mai, on sera là à partir de 22h et jusqu'à au moins 23h. Comme aujourd'hui, quoi.
Ouais, et sinon, juste un petit truc sur Arte, il y a un super reportage sur Harry Belafonte qui est décédé, qui a 96 ans, donc ça va, voilà, il a bien vécu. Mais c'était juste pour dire, il y a un très bon reportage qui sont ressortis et qui est sur la vie de ce militant chanteur. Parce que souvent, les gens se rappellent du titre qui était dans un film très célèbre qui s'appelle Beetlejuice. Et ils disent, ah là, je me rappelle Harry Belafonte, mais ils oublient qu'Harry Belafonte, c'était au-delà d'un simple chanteur, c'était aussi un militant des droits civiques, un militant des droits humains, que c'est lui qui a lutté aux États-Unis comme en Afrique du Sud, qui a fait émerger des gens comme Maria Makeba et qui allait les financer tout pour qu'elles existent et qu'elles puissent s'exprimer, alors qu'en Afrique du Sud elle était interdite, je vous le rappelle. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et puis c'était un homme qui était plein d'humour et qui, quand on lui refusait un appartement, achetait l'immeuble et parce qu'il en avait les moyens. Mais c'était très drôle, voilà. Il a
la chance de la revanche. C'est intéressant, c'est finalement du pognon mais mis en commun, parce qu'après les appartements
il a fait une collectivité,
c'est le premier habitat collectif
New-Yorkais,
coopérative. Ouais, donc je trouve ça hyper intéressant. Et à rigueur, vu qu'on est sur les docs comme ça, il y a aussi un sur Whitney Houston. Alors j'étais pas un grand fan de Whitney Houston, mais vraiment je vous le conseille parce que c'était hyper touchant et qu'en même temps, l'homophobie intériorisée de son environnement peut vous emmener à vous nier toute une vie. Et je trouve que c'est...
Et en mourir.
Et vraiment, c'est waouh. Donc voilà, deux docs. Si vous ne savez pas quoi faire demain après la manif et que vous voulez rester au chaud, et ben profitez-en pour voir ces docs qui sont pas forcément, en tout cas le deuxième, pas forcément plus sympa, mais la réalité n'est pas la plus sympa.
Et c'est sur Arte, c'est gratuit. Hein.
C'est ça. Et on se quitte enfin en musique.
Oui.
Et c'est qui dit ?
C'est moi qui dis. Et donc, c'est un titre de Radwim et Toaka qui s'appelle Suzume, qui est
tissu de la bande originale du film d'animation japonais du même nom.
Suzume. Qui est un vrai bijou.
Tout à fait.
Qu'il faut aller voir.
Exactement.
Alors allez voir Suzume.
Et ben voilà, on vous a donné quand même un programme, même si on n'est pas là dimanche prochain. Vous avez quoi faire jusqu'au 14.
Voilà.
Et ben on vous donne rendez-vous donc le 14, peut-être demain dans la rue pour celles et ceux qui y sont.
Et qui nous reconnaissent, parce que.
Qui reconnaissent nos voix.
Parce que ça peut.
Faut que je ris dans la foule.
Voilà, oui, ris dans la
ça,
foule.
Ris dans la foule.
Allez, des bisous, bonne soirée, bonne semaine, bon courage.
Des bisous, à dans 15 jours, salut.
Ciao.
もしかしたら君に気づいて